France Culture.
To be an artist is to be suspicious of labels.
Être artiste, c'est se méfier des étiquettes.
Agnès is probably more wary than most.
Et Agnès est probablement encore plus méfiante.
She was called the grandmother of French New Wave.
Elle a été surnommée grand-mère de la nouvelle vague française
when she was 30.
Quand elle avait 30 ans.
Female director is another label she might resist.
Cinéaste au féminin. C'est aussi une étiquette qu'elle refuserait.
When she began, she did not just make films no woman had ever made.
Parce qu'à ses débuts, elle ne se contentait pas de faire des films qu'aucune femme n'avait jamais fait.
They were films no one was making.
Mais des films que personne n'avait jamais fait.
Agnès, you have reminded me personally.
Agnès, tu m'as rappelé l'importance de la joie.
The joy of being playful.
Celle d'être créative.
And living in the moment.
Et de vivre l'instant présent.
Tonight, we recognize not only your work, but your life.
Ce soir, nous reconnaissons non seulement ton travail, mais aussi ta vie.
On behalf of all of us,
au nom de tous, je te dis merci d'avoir été tout sauf normal.
But normal. For being Agnès.
D'avoir été juste Agnès.
I'm slightly shy and delighted to hear all these beautiful words about me.
Je suis ravie d'entendre tous ces discours.
Yes.
Oui.
It makes me feel good. I have to say.
Ça me fait du bien, j'avoue.
And I hear them and I have a little question. Are there
Mais j'ai une
no
question.
Men in this room?
N'y a-t-il aucun homme dans
who
cette pièce
to speak up?
Qui m'aime et qui puisse parler de moi?
Donc l'été 2017, Agnès me dit, j'ai eu un Américain qui m'a appelé, j'ai rien compris à ce qu'il voulait me dire. Voilà le numéro, est-ce que tu peux le rappeler? Donc je dis, hello, I'm sorry, I'm calling you, but I don't know who you are. My mother, Agnès Varda, gave me your number. Et le type me dit, je suis le président de l'Académie des Oscars, donc c'est comme ça, on jette un peu. Et nous allons honorer Agnès Varda. Là, j'étais quand même, je me dis, waouh, super.
Agnès Varda, 1928-2019, une glaneuse à Hollywood. Élodie Maillot, Félix Levaché.
Je suis passée à minuit dans la rue, j'ai vu qu'il y avait la lumière, j'ai tapé à la fenêtre et Agnès m'ouvre à minuit et elle me parle comme si c'était normal que je tape à la fenêtre à minuit. Elle me demande qu'est-ce que je fais, elle me raconte des choses, etc. Elle me dit que demain elle part à Los Angeles parce qu'elle va avoir l'Oscar. Ça faisait une heure qu'on parle et j'ai compris pourquoi tout le monde était un peu nerveux autour. Et elle dit, je ne sais même pas ce que je veux dire. Et ça, c'est Agnès. Hein. Ça, c'est Agnès.
Back to the topic.
Mais revenons à notre sujet.
I try to work to get the essence of cinema.
J'essaye de capter l'essence du cinéma.
Finding different structure
en trouvant une forme différente
film.
Pour chacun de mes
La
films.
Pointe courte, double narration.
La pointe courte, une double
film
narration.
From 5 to 7. Real time.
Cléo de 5 à 7, tout est en temps
Vagabonde.
Réel. Sans toi ni loi.
13, continuous and uncontinuous.
13 travelling de droite à gauche.
I also try to tell
J'aime aussi raconter des histoires avec des acteurs et des non-professionnels.
And went back to the school of modesty,
et puis je suis retournée à l'école de la modestie qui est le documentaire avec les glaneurs et la glaneuse.
But, have to say, I had a hard time finding
Mais
money.
Je dois dire que j'ai eu du
And
mal à trouver de l'argent.
Bankable.
Et je ne suis pas bankable.
And I feel that between weight and lightness,
Mais je crois qu'entre gravité et légèreté, je choisis la légèreté. Et j'ai l'impression de danser la danse du cinéma.
Et alors là, la salle s'est levée. Moi, quand j'ai vu Tom Hanks se lever en disant... We love you! Et Spielberg, je me suis dit, bon, ça va.
Rosalie Varda, costumière et productrice.
C'était le plateau le plus cher que j'ai jamais vu de ma vie, parce que toutes les stars qui étaient là. Ah, on a fini à la vodka dans la chambre. Oh, c'était un bon souvenir. Elle a été très heureuse, très très heureuse, parce que c'était une reconnaissance aussi, je pense, d'un milieu qu'elle n'a pas fréquenté. Où elle n'a pas eu la carte du parti de ce milieu-là, mais la carte du parti d'aller faire des films américains avec des gros budgets.
Ouais!
À Los Angeles, on peut voir un océan Pacifique et des palmiers sauvages, des Disneylands et des studios d'Hollywood. Moi, j'ai surtout vu des murs peints dans la rue, des murales. J'en ai fait un grand film en couleurs et en musique. Un film où les murs bougent, où la ville danse, où ceux qui parlent rarement parlent.
Ça, c'est une année vraiment intéressante dans la vie d'Agnès et de Jacques Demy. Parce que toute mon enfance, dès que le téléphone sonnait, ou qu'on était en vacances, ou qu'on était dans le salon, Jacques disait « Oh là là, c'est Hollywood qui m'appelle ». Donc évidemment, tout le monde se marrait.
Elle est Murals, plan 1326, prise 1. Clap, on tourne, on a tourné.
Et puis un jour, le téléphone a sonné, et c'était vraiment Hollywood qui l'appelait. Jerry Hers, qui était producteur au studio de la Columbia, avait vu ses films et souhaitait l'inviter à Los Angeles pour le rencontrer. Et en gros, en novembre 1967, on est parti s'installer à Los Angeles, à Beverly Hills, et l'aventure américaine a commencé.
En tout cas, de visage en palmier et de palmier en mural, j'ai roulé 60 km de l'est où est Los Angeles à l'océan où est Los Angeles l'ouest.
Jacques était émerveillé de la ville. Ils ont acheté deux voitures Mustang, une noire et une blanche. En fait, c'était quand même un espèce de truc un peu irréel, quoi.
Les Los Angeles. Les Los Angeles. Les Los Angelois. Ou encore les Anglilosins, comme on dirait à Pont-à-Mousson.
J'ai vu les autres monter dans la Ford Bleu Ciel. J'ai pensé qu'ils t'avaient tué.
Ce qui est intéressant, pourquoi les studios ont été intéressés d'inviter des cinéastes européens à venir à Hollywood, c'est qu'ils se sont posé la question de qu'est-ce que c'était la nouvelle vague.
Toujours mystérieuse.
Non.
Pourquoi c'était intéressant?
J'aime pas parler de moi, je vous dis.
Alors silence.
Et est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose d'équivalent à Hollywood? Et c'est comme ça que dans ces années-là, il y a eu Godard qui est venu. Jacques avait son bureau à la Columbia, il a écrit Model Shop, il travaillait, il allait là-bas. Et Agnès qui était à la maison, alors elle apprenait l'anglais, elle rencontrait des gens un petit peu, toujours de la contre-culture, la porte était toujours ouverte. Et donc si vous voulez, c'est incroyable parce que on a vu débarquer chez nous des gens insensés. Il y a Jim Morrison qui est arrivé, il avait fait des études de cinéma à UCLA. Et en fait, il voulait être cinéaste.
Pour ne pas rien faire, j'ai écrit donc cette espèce de collage d'impression hollywoodienne qu'est Lion's Love, qui est une sorte de collage et contradiction. C'est la notion de la fausse liberté. Donc, fausse liberté d'information et fausse liberté de ces nouvelles mœurs. Et je trouvais tout à fait intéressant parce qu'en fait, Hollywood, non seulement n'est pas mort, mais existe très bien. Et que ce star system existait même dans la rêverie, soi-disant libérée, n'est-ce pas, des hippies. C'est-à-dire que l'imaginaire de mon récit colle parfaitement pour raconter une réalité, puisque la réalité était imaginaire. C'était une rêverie.
Ça a été vraiment une bulle américaine très particulière parce que Jacques rêvait d'aller à Hollywood, mais quand il est arrivé là-bas, il n'a eu qu'une seule chose, c'est la nostalgie de la France. Il n'a pas été capable de rentrer dans le système des studios. Au fond, rien ne fonctionnait, quoi, en fait. Pendant ce temps-là, Agnès, dans son petit coin, elle, toujours ancrée dans le présent, elle fait un film qui est comme un sort de documentaire sur la vie à Hollywood en 67-68, qui s'appelle Lions, Love and Lies. Et donc, elle a vraiment pris tout ça, elle a aspiré toute la vie et tout ce qu'ils ont traversé pour en faire quelque chose. Et Jacques a été en souffrance, je crois, du système américain.
Il y a une grande odeur de cinéma à Los Angeles. J'aime ces contrastes, cette espèce de... Je sais pas, c'est le rapport de l'espace et de la lumière. C'est ces palmiers trop maigres ou bien trop courts, ou bien... C'est quelque chose qui tourne pas rond et qui me plaît beaucoup. Il y a une inquiétude dans cette ville, et c'est une inquiétude qui est graphique, qui est spectaculaire. Et Los Angeles, c'est ce qu'il y a le plus à l'ouest. On ne peut pas aller plus loin. C'est le bout de l'Amérique, c'est le bout de la Californie. Et moi, je suis très sensible à ça. Alors, il y a quelque chose de désespéré, ou de désespéré chez les gens qui sont là, qui est une matière de ville assez extraordinaire. Et en même temps, c'est une ville très joyeuse, très animée, très excentrique.
My Hollywood outfit. I bought it in New York for Hollywood. Okay. You're really looking forward to this, aren't you?
Nervously.
You don't need anything. You got smog here and you got a lot of pain and suffering here.
Look at that beautiful pool. That really is beautiful.
No, if I were a kid, I'd really love it.
Oh, my God.
Lion's Love and Lies, 1970. À l'époque, j'ai habité une communauté à Paris. Un jour, quelqu'un appelle en haute voix, Nourrit, et c'est Agnès Varda qui veut te parler. Il y avait qu'un téléphone, évidemment.
Nourrit Aviv, cinéaste.
Je pensais que c'est une blague. C'est une blague. Je vais au téléphone, et il y a Agnès qui dit bonjour, c'est Agnès Varda. Je voulais vous féliciter sur l'image de film que vous avez fait, Erika Minor, avec Bertrand Van Effenter, qui est passé à Cannes. Et elle m'a dit, j'étais avec Jacques Demy, et tous les deux, on a dit que l'image est formidable. Et puis elle dit, vous voulez bien travailler avec moi? Ah, bon, et bien sûr. Et vous pouvez venir demain? Ah, bien sûr. Ça faisait longtemps qu'elle n'a pas fait un film, parce qu'elle avait un enfant, Mathieu, et que ça faisait, je ne sais pas quel âge Mathieu avait, peut-être 1 an et demi. Et du coup, elle voulait faire un film autour de la maison. Pas loin de home. Et en fait, comme la lumière, on l'a tirée de chez elle.
C'est-à-dire
qu'on a pris l'électricité à la maison chez elle, parce qu'il y avait quand même des projecteurs. Et on a tiré un fil qui avait 80 mètres ou 90. Et on ne pouvait pas aller plus loin que ces 90 mètres. Voilà, c'était comme...
Comme un cordon ombilical.
Oh, exactement, oui.
C'est-à-dire que vous étiez relié à la maison d'Agnès Varda,
oui,
pendant tout le tournage.
Qu'on a commencé à tourner chez les commerçants de la rue Daguerre, voilà. Et là, en effet, on s'est laissé entraîner et moi j'ai tourné. C'est-à-dire que j'ai tourné comme souvent des plans très 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 longs. Et nous, depuis, c'était vraiment la complicité totale, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit grand chose, hein. On s'est pas dit grand chose. On a beaucoup parlé des rêves, parce que pour moi, j'expliquais la psychanalyse, les rêves, on a soucis et tout ça. Et ce qui m'intéressait, j'expliquais que dans la psychanalyse, ce qui m'intéresse, c'est le travail sur les rêves, hein. Je crois que c'est surtout qu'elle était curieuse, elle voulait savoir de l'intérieur comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait exactement. Bon.
Sans jamais essayer elle-même.
Ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Hein. Je ne sais pas. Mais moi, j'essayais d'expliquer que je veux guérir des riens, que c'est une aventure, comme l'aventure cinématographique, c'est une autre sorte d'aventure, et que c'est cela et laisser là.
Il n'est pas écrit.
Cette fois-ci, pour parler de moi, j'ai pensé, si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi, si on m'ouvrait, on trouverait des plages. Ces plages belges, je n'ai connu que ça, à toutes les vacances de toute mon enfance. Et quand j'entends Knokkelzoet, Blankenberg, Ostende, Mariakerk, Middelkerk, La Panne et Zeebrugge, ce sont des sons délicieux à mon oreille. Conçue dans la ville d'Arles, on m'a nommée Arlette. À 18 ans, j'ai changé de prénom, j'ai choisi Agnès, et je l'ai fait enregistrer au greffe du tribunal.
Clap première. Séquence cimetière, Agnès Varda. On est au milieu des allées et c'est vrai que comme c'est l'automne, Agnès aurait adoré le côté multicolore, ouais, le tapis de l'automne, quoi. Et là, on prend les chemins de traverse. Donc on est dans les marges du cimetière. Et on n'est pas dans les allées principales, avec les feuilles qui tombent.
Julia Fabreau, artiste et commissaire d'exposition.
Agnès aimait beaucoup les cimetières. Donc ça pouvait faire partie aussi des balades. On en a fait de nombreuses aussi au cimetière marin, à Sète. Les morts faisaient partie de la vie d'Agnès et elle était plutôt dans cette culture d'intégrer les souvenirs, la mémoire, et d'en faire une part constituante de sa vie et de sa création aussi. Donc... Alors, sur la pierre tombale est inscrit « Ici repose Jacques Demy, juin 1931, 27 octobre 90, Agnès Varda, 30 mai 1928, 29 mars 2019. On peut lire donc famille Demi Varda. En lettres majuscules, très sobre. Bah, une famille de cinéma.
Vous êtes la fille de Jeanne Varda ?
Oui, c'est moi.
You are the daughter of Jeanne Varda ?
Yes, yeah.
Is it Cory to Evienu Varda ?
Comme Agnès travaillait beaucoup, son travail c'était sa vie, donc on vivait aussi un peu en famille. Donc la famille c'était aussi la famille qui accompagne pour aider à cette dimension de créativité et de construction d'une œuvre.
Oui, Agnès elle parlait peu de ses parents, elle aimait énormément sa mère Christiane Varda, qu'on appelait Cri-Cri. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette Cri-Cri, qui était donc ma grand-mère. Agnès s'entendait bien avec sa mère. Sa mère l'a beaucoup soutenue. Elle l'a beaucoup soutenue, lui a prêté de l'argent pour financer son premier film, La Pointe Courte. Quand elle est tombée enceinte, elle n'était pas mariée. Il y avait quand même, oui, de moi, en 58. Il y avait beaucoup de gens autour d'elle, de pression, son grand frère, mais il faut que tu te maries et tout. Et sa mère lui a dit, il faut que tu sois heureuse. Et elle donc s'est mariée avec Eugène Varda, donc mon grand-père, qui était d'origine grecque. Quand son mari est mort, parce que son mari est mort en 51, l'année où Agnès s'est installée ici, rue des Guerres, avec Valentine Schlegel. Et Christiane s'est remise à faire des études, s'est inscrite à l'école du Louvre. Lui, il était ingénieur dans une société de nacierie qu'il a rachetée. C'était de la bourgeoisie, en fait, avec du service, avec un chauffeur, avec une employée de maison. Mais Christiane, elle a compris que ma mère était un petit peu en dehors des sentiers battus et qu'il fallait la laisser être un peu en révolte. Parce que ma mère était en révolte contre son père. Mais bon, on peut dire qu'Agnès s'est construite contre sa famille. Alors que Jacques s'est construit par sa famille. Agnès, elle s'est construite contre ça. Contre l'establishment, contre la bourgeoisie, contre l'antisémitisme, contre des choses qui pour lui paraissaient l'horreur.
Pour préciser, Rosalie, quand vous dites Jacques, c'est Demi. Jacques Demi ?
Oui, Jacques Demi. Jamais appelé mes parents papa et maman.
Quand vous dites Agnès, c'est Agnès Varda, votre mère.
Et quand je dis Agnès, c'est Agnès Varda, ma mère. Et c'est drôle parce que j'ai aucun souvenir de l'appeler maman. Aucun.
Tu me détestes, on dirait.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime, enfin gâté.
Pose-toi. Tout le monde me garde. Personne ne m'aime.
Quand je pense à mes parents, je pense souvent à ça. Comment les histoires d'amour ne sont jamais simples. Comment ils se sont aimés avec des parcours différents. Et comment ils ont aimé partager leur amour du cinéma, quoi, en fait. C'est vraiment une grande histoire d'amour entre eux. Même si ça a été chaotique, même si Jacques a eu des relations homosexuelles, etc. C'était une histoire d'amour, quoi, en fait, hein.
On dit souvent, au pied du mur, quand il faut s'exécuter, montrer ce qu'on a dans le ventre et son vrai visage. Comme si la plupart du temps, on avait un faux visage et les tripes cachées, une tête de rechange pour se planquer, un visage de circonstance. Moi, je ne vois que cela, les visages, et je les trouve vrais, plus vrais que les conversations. Être séparé d'un homme, c'est être en exil parmi tous les hommes.
Quand on s'est exilé quelques années en Californie, à Los Angeles, ma mère, Agnès Varda, donc, a décidé de partir. Je suis parti avec elle, j'ai suivi. Et...
Mathieu Demi, acteur et réalisateur.
Qu'est-ce qu'il cherche ? Des choses à manger ? Des choses pour garder ? Des choses vieilles ? C'est ça, le temps. Bien bête.
Documentaire, sorti en 1981, un film de fiction tourné à Los Angeles avec Mathieu Demi dans le rôle de Martin, Sabine Mamou, la monteuse d'Agnès, dans le rôle d'Émilie, et la voix de Delphine Seyrig.
Pas les bêtes qu'on connaît comme des animaux, les escargots, les chiens, les chats, les lions. Enfin, si, les lions un peu. Mais les bêtes de la nuit. J'ai peur quand je sais pas de quoi j'ai peur.
Mais moi aussi, bonhomme, et tout le monde.
On a tous peur des fois. On est des petits humains.
C'est un film assez personnel, assez mélancolique, qui a été tourné en 16 mm par Nourrit Aviv sur une pellicule Fuji un peu froide, et c'est un film qui se passe entièrement à l'ombre et qui met en scène donc un petit garçon entre autres qui était moi. Donc ce film se mélange avec mes vrais souvenirs.
Agnès Varda vous rappelle, cette fois elle n'est plus rue Daguerre. Elle est où?
Elle est à Los Angeles. Et elle m'a dit, bon, viens. Elle m'a dit de venir. Et elle m'a dit, amène avec toi ta caméra. Elle n'avait pas un scénario. Hein. Mais ça, ce n'est pas dérangeant. Je veux dire qu'on n'a pas de scénario. Et je viens. Moi, je ne suis pas très Hollywood. Elle me donne une chambre fantastique. Elle habite au bord de la mer. J'attends qu'Agnès, elle écrit son...
On y va maintenant?
Take four. Yes,
moi, à Los Angeles, j'ai surtout vu des murs.
Cut, bien.
Take six.
On ne sait pas toujours si c'est l'art qui imite la vie ou la vie qui imite l'art.
Elle s'inspire de sa propre histoire.
L'art qui imite la vie ou la vie qui imite l'art.
C'est ma voix, ça?
Entre-temps, elle me dit, bon, on va installer ta caméra sur la terrasse, sur le balcon, et on va tourner de temps en temps des choses. Et alors, la caméra était installée. Il fait beau, donc ce n'était pas un problème. Et de temps en temps, on filmait. Et Sabine Mamou, la monteuse, qui devient le personnage principal, ce n'est pas actrice, c'est sa monteuse. Mais c'est la manière de faire de home movie un peu, hein, parce qu'elle a tout le monde sous la main. Moi, je suis là pour filmer. Sabine va et jouer et monter. Et on commence à tourner. Je ne sais même pas par quoi, comment, lentement. Bon, elle venait de se séparer et de Jacques, de Mie, et elle est très douloureuse. Ça va se réparer plus tard, mais là, c'est quand même le sujet douloureux qui est là. Et on tourne quand même chez Agnès. Donc les choses, la fiction et la réalité se mélangent un peu.
Et le film s'appelle ?
Documenteur, donc pas documentaire, mais documenteur, menteur. Et en anglais, il s'appelle An Emotion Picture. Hein. Donc, elle joue sur le mot, mais en anglais, c'est quand même An Emotion Picture. Hein. Et pas Motion Picture, mais An Emotion Picture.
Mm-hmm.
Bon.
Les émotions.
Oui, émotions.
Et dans ce film, il y a l'irruption de plans documentaires,
oui,
qui se mélangent en,
oui,
une fiction
ça,
très écrite. Comment est-ce que mais vous avez tourné les plans? Parce qu'il y a des choses incroyables.
Oui, mais par exemple, cette séquence de couple qui se bagarre, on la tourne vraiment. Ils sont par hasard. Et eux, ils sont tellement préoccupés, les couples, à se bagarrer, qu'ils font pas attention à nous. Je comprends pas comment, hein. Et du coup, puisque ils nous laissent filmer, on envoie Sabine dans les cadres.
Hein. Donc, elle est actrice à ce moment-là.
Elle est actrice, elle est avec nous, elle est actrice, mais elle rentre dans les cadres de cette séquence qui est documentaire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien qu'on tourne tout à l'ombre, qu'il n'y a pas ces couleurs pétantes de Los Angeles. Et après, ça correspondait à son état d'âme aussi. Quelque chose de plus intime, comme ça, j'ai l'impression. Et voilà. Et je me rappelle que ce qui était drôle, j'avais un assistant américain, et Agnès arrêtait les gens qui travaillaient dans la rue et leur demandait de refaire, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans les cadres, sortir, etc. Et lui, il était mort de rire parce qu'à Los Angeles, ça se fait jamais. On paye les gens. Et on peut pas, c'est-à-dire, c'est toujours des figurants. Personne n'a jamais vu ça à Los Angeles. Mais Agnès, bon, elle commençait à diriger la rue. On a transposé la rue Daguerre à Los Angeles, à Venice, et en demandant aux gens de la rue de jouer leur rôle. Hein.
Mes parents étaient séparés. Ma mère, elle travaillait. Je peux pas très bien savoir si elle était aussi malheureuse que ce qu'elle a voulu en, en montrer dans documentaire. Sans doute que oui, mais elle le montrait moins dans la vie. Au départ, je crois qu'on était parti en fait pour suivre Jacques Demy, donc qui avait été rappelé par la Columbia pour un projet de comédie musicale qui s'appelait Skaterella et qui était en gros Cendrillon en patin à roulettes. Et lui essayait de monter ce film et il n'y arrivait pas du tout. Et donc on est parti le rejoindre officiellement. Enfin moi c'est ça que j'ai eu comme explication. On est parti le rejoindre pour pas être trop loin malgré le fait qu'ils ne vivaient pas ensemble. Il n'arrivait pas du tout à monter son film, mais il arpentait Venice Beach en patin à roulettes, complètement déprimé. Et il faisait du patin à roulettes toute la journée pour essayer de trouver l'inspiration. Et il se passait rien. Et pendant ce temps-là, Agnès, qui elle était toujours très dans le présent et dans faire les choses au moment où on les voit, où on les vit, où on les comprend, elle était tout de suite au taquet.
Pourquoi on doit partir de chez Lisa?
Parce qu'on gêne un peu.
Et Phil aussi, on le gêne?
Un peu aussi, je crois.
Je crois que c'est là, Agnès est vraiment triste.
Moi, j'aime bien Phil.
Au moment où on tourne ce film-là.
Il faut que je me rappelle où sont nos autres choses. Une valise et des cartons chez Charles, un lit chez Sylvette, de la vaisselle chez les Knop. Et oui, mon manteau d'hiver, celui que j'avais en arrivant.
Et j'ai l'impression, pour moi, c'est le film le plus personnel d'Agnès, parce que c'est comme les autoportraits des peintres. C'est incroyable, les autoportraits de Rembrandt, par exemple. Et ça va là où est la solitude, là où l'homme est face à lui-même, face à son propre destin. Et là, je crois que c'est dans ce film-là, plus que tout autre film, et Agnès est allée plus loin de ce qu'elle avait l'intention. C'est-à-dire que je crois que c'est le film le plus intime d'Agnès. Hein. Et quand même, elle était aux États-Unis, c'était pas le terrain, son propre terrain, c'était pas chez elle, c'est pas Rome, c'est pas la rue Daguerre, c'est soi-disant Rome, mais bon, c'est pas évident, mais ça donne une profondeur au film, je crois. Quand on fait les gros plans de chacun, il est seul, hein. Il est très très seul. Même si on filme la solitude, on a le bonheur de filmage lui-même. Et le filmage ne se fait pas seul. Hein. Elle n'est pas seule. Elle n'a pas une caméra seule. Elle est quand même entourée. Hein. Donc,
Il y a peut-être l'idée en germe un petit peu des Veuves de Noirmoutier d'une solitude parmi d'autres ou de cette forme d'interaction. Et puis, il y a l'idée en germe des glaneurs, évidemment, parce qu'on ramassait tout un tas de trucs dans la rue et c'était déjà un peu l'idée de recycler, l'idée de redonner une vie aux choses, aux objets qui je pense l'a poursuivi jusqu'au glaneur beaucoup plus tard.
Et cette idée de recycler et de donner vie à des objets ou à des objets artistiques, vous en êtes aussi emparé parce que vous avez recyclé en quelque sorte cette époque et ce film dans un de vos propres films qui s'appelle Americano.
Oui, qui s'appelle Americano, oui. Oui, alors effectivement, c'est aussi du recyclage, on peut dire exactement. Je l'avais jamais vraiment vu comme ça, mais c'était aussi un peu une manière d'essayer de s'en extraire. Ça me semblait important pour moi de parler de ma filiation, peut-être aussi un peu pour s'en débarrasser, ou en tout cas, il y a un côté un peu millefeuille, un peu psychanalytique de l'affaire.
Ouais.
C'est un film intimiste, quoi. Donc, c'est ce documentaire, si vous voulez, c'est des vrais souvenirs, mais beaucoup plus gracieux et beaucoup plus percutants que pourraient être des captations de notre vie de l'époque. En fait, c'est des souvenirs de fiction, quoi.
C'est peut-être encore plus vrai dans votre cas, dans votre histoire familiale. La fiction est peut-être encore plus vraie que le documentaire.
Ben oui, enfin ça, en tout cas, c'en est la quintessence ou c'en est la substantifique moelle peut-être.
Ce qu'on garde au montage, ce que la mémoire ouais, garde voilà. Au montage.
Mais je ne sais pas.
Ouais, exactement.
Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais depuis qu'on est venu en Amérique, ça a plus tellement marché.
Et Martin, qu'est-ce qu'il dit, Martin?
Il dit pas grand-chose.
Je vais venir te voir. Tu veux bien?
Oui, j'aimerais bien.
Émilie, je suis désolée. J'ai pas voulu te faire de peine. Écoute, dis-moi que tu vas bien quand même.
Non.
C'est, vous me parlez de l'époque des dinosaures, hein. Moi, j'étais aux États-Unis en 1980. J'étais vraiment jeune. D'abord, au début, j'étais babysitter et gouvernante dans les, pour une famille riche. Et après, j'étais plutôt limite zonarde dans des squats, quoi.
Patricia Mazui, cinéaste.
Quand je suis allée à L.A., je savais même pas que c'était Hollywood à L.A. Et c'est là que j'ai rencontré Agnès, effectivement. Ça, c'est assez drôle. Donc, elle m'avait demandé d'être assistante et monteuse. Comme il n'y avait pas d'argent, il fallait qu'elle trouve des jeunes qu'elle puisse payer pas cher. Et ça a été en fait, c'est aussi pour ça que ça a été d'une certaine manière notre grande chance. Je n'étais absolument pas qualifiée pour faire ce que j'ai fait sur Saint-Ouen-Illois, mais je l'ai fait.
Il y avait ceux de l'Université de Marseille. J'ai fait mon speech, tout ça.
Saint-Ouen-Illois, 1985.
J'ai pris en stop une routarde, une vagabonde, quoi. Tu n'as pas idée comme elle puait. Quand elle est montée dans la voiture, ça m'a suffoquée. Tout puait. Son duvet, son sac, elle, tout. Une crasse. J'ai eu un choc. Je ne pouvais pas lui dire non après l'avoir laissée monter.
En fait, je pense qu'elle m'avait appelée parce qu'elle m'avait vue à Los Angeles, limite, au niveau...
Dormait dehors toute seule. Ouais.
Vivant dans des squats.
Ouais, voilà. Elle avait pris Cétina en stop.
Qui était donc une...
Cétina était une marginale, une vagabonde qui faisait du stop et qui couchait dans les gares et qui était surtout une junkie. Et puis du coup, elle s'est dit, mais en fait, il y a un sujet avec cette fille. Quand elle a lancé Saint-Ouen-Illois, franchement, il n'y avait pas de SDF dans les rues. Il n'y avait pas des gens dehors. Mais elle a senti le truc en ayant ramassé une fois en stop la jeune fille qui a inspiré le rôle de Sandrine.
Sandrine Bonner.
Oui. Mm. Elle était très copine avec le maire de Nîmes. Donc, elle avait obtenu qu'ils nous mettent à disposition à elle. Elle dormait aussi là et tout. Tout le monde avait des... C'était des, une résidence de... C'était des espèces de dortoirs où on était deux ou un, suivant. Ça, moi, j'avais la table de montage dans ma chambre, quoi. J'avais on avait enlevé un des deux lits superposés et mis la table, quoi. On s'amusait vraiment et on se demandait bien c'était quoi le film. Il y avait un côté aventure.
Oui, c'est-à-dire que vous n'imaginiez pas que ça devienne un chef-d'œuvre qui aurait une renommée internationale quand même.
Ouais, non, pas du tout. Mais elle était tout le temps très concernée par la forme, quand même. Et son côté artiste contemporain, il était là au cinéma. C'est maintenant que je comprends tout ce que j'ai appris. Et la chance que j'ai eue de commencer avec quelqu'un qui était à ce point dans la liberté et dans le travail. Voilà.
Ce qui est plus rare aujourd'hui?
Ce qui est très difficile aujourd'hui. Si vous voulez, maintenant, le cinéma, il est moins aventure que ce qui se passe dans les installations et les trucs comme ça. Ça, c'est un talent qu'Agnès avait.
Oh, c'est bien! C'est une maison de poupée pour Étaval plus tard?
Non. C'est une cabane de trappeur pour Robert et pour moi. Les filles pourront pas y venir.
Même pas moi.
Toi, tu as tous les droits. Sauf celui de porter toujours ce garçon.
Il est si petit.
Faut qu'il marche. Là, je m'arrête un peu, je vais revenir.
Est-ce que vous pouvez nous décrire, Nathalie, ce qui est devant vous? On sentait que vous étiez assez émue de revoir cette œuvre.
Oui, c'est la cabane du bonheur que j'ai eu la chance d'exposer à la galerie à Paris. Agnès était, on va dire, en permanence à la galerie au moment de l'installation.
Nathalie Obadia, galeriste et curatrice.
Vous pouvez vous imaginer que c'était très complexe puisqu'il s'agit d'une maison qui est faite de films qui
représentent
de bobines qui reprend le film justement La Cabane du Bonheur, et à l'intérieur il y a des pots avec des tournesols que Agnès Varda elle-même conçut. Donc cette cabane, on va dire, fait à peu près 15 mètres carrés, et c'est tout ce qu'on a pu voir dans ses films, dans ses photographies. On l'a vu avec notamment La Pointe Courte, qui est son premier long métrage, et le fait de choisir de faire une maquette de ce bateau dans lequel il y a ces scènes incroyables avec Philippe Noiret et
Sylvia Mouffat.
et Sylvia Monfort, voilà, tout d'un coup, on sent que ça lui a fait plaisir, des dizaines d'années après, de pouvoir se remettre dans l'ambiance.
Tu vois, en fait de voyage, je n'ai pas d'autre ambition que de voir de temps en temps un truc comme ça.
Ambition, tu connais ce mot-là?
Mon enfance s'est déroulée parmi ces chantiers.
À Paris, il y a tant de gens qui viennent pour réussir, pour se faire une place. Moi, j'y suis née. Et j'ai vu beaucoup d'agitation autour de moi. J'ai longtemps cru que c'était utile de s'agiter. Tu m'as appris à rester tranquille.
Tout est lié. Voilà. Et même entre les films, les photographies et les installations, qui mêlent d'ailleurs tout, parce que les installations mêlent des vidéos, mêlent des photos. Voilà, c'est une manière vraiment très ingénieuse, très... très humoristique, mais très touchante, voilà, de mêler tous les éléments de sa vie. Voilà, c'est une grande chance. Et puis en plus, c'est un grand témoignage sur ce que peut être, ce qu'a pu être une des grandes cinéastes internationales, tout en restant Agnès Varda, de Noirmoutier, de Sète.
J'ai comme glanage. Glaner, c'est ramasser après la moisson. Glaneur, glaneuse, celui ou celle qui glane.
C'est l'esprit d'antan, ça. J'ai entendu souvent ma mère dire « Fini de ramasser pour pas gaspiller
ah. !» Je suis allée il y a 2 ou 3 ans, peut-être il y a même 2 ans, au musée du cinéma à Hollywood. Voilà, enfin à Hollywood, à Los Angeles. Et au premier étage, il y avait 2 expositions. Il y en avait une qui était consacrée au parrain de Coppola, toute l'histoire du parrain. Et de l'autre côté, il y avait une exposition sur Agnès Varda qui est là, avec sa sensibilité si française, avec des tas de choses très touchantes, et avec toujours cet instinct du bricolage, mais qu'on retrouve dans ses films, et ça fonctionne. Et je pense que c'est ça qui va rester d'elle aujourd'hui. Enfin, si elle reste dans le cinéma, la preuve c'est que vous voyez, Hollywood, enfin le musée du cinéma lui a consacré cette exposition, c'est justement parce que cela permet de comprendre que au premier quart du XXe siècle, voilà, il y a cette façon de faire du cinéma qui est très importante. Voilà. À Miami, par exemple, à Art Basel Miami, nous avons montré il y a 7-8 ans une série de photographies d'époque qu'elle avait faite à Cuba en 62-63. C'était incroyable. Il y a un portrait de Fidel Castro devant une pierre, et cette pierre avait une forme un peu comme ça, on aurait dit deux ailes d'ange en pierre, mais incroyable, avec Castro en grand héros romantique. Et j'avais demandé à Agnès, mais comment t'as fait cette photo? On était au restaurant tous ensemble, je lui ai demandé de sortir et on a pris cette photo, elle est incroyable. Nous l'avons vendue pendant la foire de Miami à une collection incroyable, donc un monsieur qui est venu choisir des photos, la conseillère qui était auprès de lui est venue me voir en me disant voilà, il a pris les 3, alors écoutez, c'est intéressant pour vous que vous sachiez, mais ce monsieur est le neveu de George Bush. Incroyable, voilà. Vous voyez, ça, c'est les surprises d'Agnès Varda aussi jusqu'à la fin. Il y en a eu quand même certaines comme ça. Elle est très populaire aux États-Unis. Je me souviens quand on a commencé à travailler ensemble, elle m'a dit « Bon, tu comprends, je suis une vieille cinéaste, mais je suis une jeune plasticienne. » Même quand je montrais certaines œuvres que le public ne la connaissait pas, certains publics, effectivement, ils pensaient que c'était une artiste de 30 ou 40 ans. Voilà, quand vous voyez la cabane du bonheur telle qu'on la voit là, on ne peut pas s'imaginer que cette dame avait plus de 90 ans quand elle l'a faite. Elle s'inventait des défis. Voilà, des défis. Ça, c'était formidable.
Check to see if he's a graduate donor.
Je suis Prune Nourri, je suis sculpteur et amie d'Agnès.
Caucasian.
We are the Jews satisfied there. Expectations.
Avec Agnès, c'était. C'est pas simple de rentrer dans son univers, même. En tant que femme, je pense qu'elle est à la fois très accueillante, j'arrive pas à parler d'elle au passé, à la fois très accueillante et en même temps, il y avait quelque chose où on sentait que ça pouvait partir d'un coup et elle pouvait lancer un pic qui vous touchait en plein cœur. Mais moi, j'adore.
Tu as la technique. Tu as l'habitude, non?
Oui.
Ah,
mais c'est la technique que je fais tous les matins, ça. Ça va pas?
Si, si. Très bien.
Très bien. Attends, bon, je recommence.
Je l'ai rencontrée, elle avait 87 ans, je pense, 86 ans, et elle est décédée à 92. Pour moi, elle a eu un impact extraordinaire. Un impact d'amis, un impact de sœur, un impact de grand-mère, un impact où elle était tout à la fois, en fait. De mentor, bien sûr. Et je pense que pour elle, justement, cette relation qu'elle avait avec nous, un groupe d'artistes, en fait, de tous les âges, il y avait justement, je pense, cette connexion. Elle avait la magie des mots, elle avait la magie des formes, elle avait la magie des relations humaines. Donc, c'est une artiste complète.
Attends, monte un peu plus, parce que pour faire la suite de là où tu es, il faut que tu sois un peu plus haut.
Ah, comme ça ?
Un peu plus haut, oui.
Non, si ?
Si, pour continuer. Non. Oui, parce que tu as coupé. Monte
mais
un peu
pas
plus
grave.
Haut. Monte un peu plus haut, je crois.
Je ne veux pas montrer trop haut.
Et vous êtes aussi quelqu'un qui a été filmé par Agnès Varda, mais qui en même temps a monté les images d'Agnès Varda, ce qui n'est pas
commun. Mais c'est vrai que surtout quand on connaît Agnès, elle ne laisse pas forcément monter ses images. Et le montage, c'est de la sculpture. Moi, je le vois vraiment comme de la sculpture, d'autant plus à l'époque où on servait de ciseaux pour couper. Les sculpteurs aussi se servent de ciseaux, les ébénistes.
Coupez, mademoiselle. Et choisissez 9 cartes de la main gauche.
Que c'est ? 3 pour le passé, 3 pour le présent, 3 pour l'avenir.
Vous connaissez les tarots ?
Un peu comme ça.
Cléo de 5 à 7, sorti en 1961, à une époque où le mot cancer n'est alors jamais prononcé dans le cinéma.
Je vois des sculptures en plâtre, des corps abstraits. Ça, on dirait de la glaise. Avec des structures en métal, un atelier d'artiste. Tout ce que j'aime. La sculpture, beaucoup de sculpture. Ah, génial. Un cours de nu.
Salut.
Avec une femme qui pose, une femme modèle qui pose.
Parce qu'elle est gentille, qu'elle est belle.
Et ça a l'air d'être un vrai cours, on dirait que c'est pas trop mis en scène.
En effet, c'est fini pour toi.
Ouf. Comment vas-tu ? Et toi, depuis le temps qu'on ne s'est vu ?
Ça va ? On n'a jamais vu ça, copine. Pas celui-là, mais...
En juin, j'ai reçu un appel de mon médecin pour m'annoncer que j'avais un cancer du sein.
On était devenus très proches à ce moment-là et je pense que c'est une des personnes qui a eu le plus d'empathie pour moi au moment de cette annonce de la maladie. Et je la voyais inquiète, mais vraiment profondément inquiète. Pour moi, c'était étonnant parce que je me disais, mais voilà, c'est ça arrive à tellement de femmes. C'était quelque chose d'hyper touchant en fait, cette inquiétude. Et en même temps, je voulais pas qu'elle soit inquiète. Elle était âgée.
Les cartes disent la mort et moi, j'ai vu le cancer. Elle est perdue.
Et quand j'ai appris que je devais avoir de la chimio. Que je lui ai dit que j'allais couper mes cheveux et je lui ai dit mais c'est ma natte, j'aime tellement ma natte, je vais devoir couper ma natte, je vais la regretter celle-là. Et je lui ai dit du coup je vais la couper et je vais la garder.
Voilà, la tresse a été sectionnée à coups de ciseaux, c'était un moment très émouvant. Oui, dans la cuisine d'Agnès, j'ai fait beaucoup d'images sur ce tournage et notamment la scène où on coupe les cheveux de Prune.
Ah, oh, c'est bizarre.
C'est là. C'est ta couette, hein.
Je peux la mettre de l'autre côté. Je vais la mettre là.
Oui, ça, regarde bien de face. On dirait peut-être un éléphant. Enfin, je sais pas.
Étonnant, Agnès.
Alors, attends. Moi, je t'aime beaucoup comme ça.
Et elle me dit, écoute, c'est vraiment un rituel de passage. Moi, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Pour passer de fille à femme, j'ai coupé ma propre natte. Et elle me l'a sortie d'un tiroir, cette natte. Et cette natte était un objet, une sculpture en tant que telle, dans un mouchoir, comme les mouchoirs d'Agnès qu'on connaît, quoi, avec les petites broderies et tout ça à l'ancienne.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold.
Je crois que ma mère avait une 3 grandes qualités, la curiosité, la liberté, et puis elle avait cette qualité d'avoir gardé une forme de fantaisie. C'est-à-dire, elle arrive avec les cheveux bicolores au bureau en disant « Tu sais, j'ai changé de coiffure parce qu'une petite vieille avec des cheveux blancs, c'est très chiant. » Et je la vois arriver avec sa coiffure à la Mireille Mathieu vanille fraise, là. Je me dis « Mais quelle horreur !» Je lui dis « Mais c'est pas possible, tu vas pas nous imposer ça !» Elle me dit mais les enfants n'aiment pas le changement, ma chérie. Et cette coiffure, c'est devenu une sorte de marque de fabrique. Elle s'est fait un petit personnage, vieille dame indigne et rigolote. Et elle a eu raison. Elle a eu raison.
D'être filmée, c'est bizarre pour moi. Je suis plutôt derrière la caméra. Puis je me suis dit, mais en fait, tiens, je vais faire un peu comme si j'étais une sculpture, parce que je vais devenir sculpture entre les mains des médecins. Je vais devoir être reconstruite. Je passais dans cette phase-là. Et du coup, j'ai eu l'idée de mettre un drap blanc, un peu comme une sculpture grecque. Et Agnès a filmé, elle a filmé avec sa petite caméra, avec l'aide de Julia qui travaillait avec elle à ce moment-là. Et en fait, elle, étonnamment, à un moment donné, elle me dit « Ah, on dirait Cléopâtre ». Donc elle m'a appelée Cléo.
« C'est celui-là que je veux. En cette saison de la fourrure, Cléo, si, voyons. Si. »
Mesdames, vous désirez ? Je voudrais un chapeau.
Et ensuite, elle m'a dit, mais on dirait aussi les Amazones. Sans savoir qu'en fait, quelques années plus tard, c'était l'image que j'allais choisir, l'Amazone, pour faire mon ex-voto, mon rite de passage, pour marquer la fin des traitements. Donc elle m'a offert ça.
Cléopâtre, je vous idolâtre.
Tout ce dont moi je me souviens pratiquement toujours, même dans ces moments un peu difficiles, c'est plus du travail. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui était toujours plus important que ce qui était en train de se raconter, qui était comment le raconter, parce qu'il y a une forme de résistance chez Agnès, mais qui n'est pas une résistance dans la force, la question de la mort, toutes ces questions-là. Bien sûr, c'est des choses auxquelles elle pensait, mais je pense que se raccrocher une fois de plus au réel, à des choses pragmatiques, c'était un moyen de la combattre. Clap de fin, heure du déj.
C'était une chance d'avoir rencontré Agnès Varda et de l'avoir fréquentée de près et pendant si longtemps. Ouais. J'aime dire, je l'ai adoptée comme ma mère. Je ne lui ai jamais demandé officiellement si elle voulait être ma mère adoptive, mais ça, c'est un regret.
Dominique Bluer, maître de conférences en cinéma à l'Université de Chicago et à Harvard, et commissaire d'exposition.
La première rencontre n'était pas très excitante, parce que c'était quand elle faisait la présentation des glaneurs et la glaneuse. Donc, à l'époque, j'étais à Rennes, à l'université, et... pour une raison mystérieuse, elle souhaitait avoir quelqu'un à ses côtés pendant qu'elle fait sa sieste. Et donc j'ai passé une heure en la regardant se reposer. C'était d'être l'ange gardien sur son sommeil.
Nous avons peut-être tous envie de partir au crépuscule. Nous sommes sans doute tous captifs dans nos vies. Mais pour ceux qui sont fiers d'être normaux, le rêve est maladie. Ainsi parlent-ils plus volontiers de leurs soucis professionnels que de leurs songes, refusant toute rêverie et tout mouvement intérieur. C'est vraiment le silence du sommeil profond.
Automatiquement, on pense au travail qui nous obsède, c'est tout. On ne fait pas des rêves barloques, on n'en fait pas. Moi, je rêve surtout mon boulot des fois, vous savez, enfin au boulot, oui. Alors, je vis ce que je fais dans la journée, bien souvent. Bon, c'est
la rêverie d'Agnès Varda est... très différente du rêve opium que propose, disons, le grand cinéma commercial. Parce que ça, les rêveries d'Agnès Varda sont des rêveries, d'une part, qui vraiment permettent aux spectateurs ou visiteurs de ces installations de partir dans sa propre tête. Et puis... en plus, c'est quelque chose qui est donc très actif. Donc, c'est pas du tout une rêverie qui serait un échappatoire ou de se passer de quelque chose, mais c'est au contraire un engagement. Et ça, je pense, c'est essentiel là. Les rêveries de cet ordre-là, pas de l'opium pour le peuple.
Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, Agnès Varda était si populaire, si aimée, si adulée aux États-Unis, surtout par les jeunes, alors qu'elle avait plus de 80 ans?
parce qu'elle était jeune. Agnès Varda, et bon, l'âge biologique était vraiment mineur par rapport à sa curiosité, sa vivance, son envie de rencontrer les gens et de s'engager avec les gens.
Moi, on m'avait annoncé que j'avais un cancer, ayant 31 ans, j'avais un cancer de vieille dame. Et quand elle m'a appris le sien, elle était à Paris, j'étais à New York, c'était par téléphone. Je me souviendrai toujours de où j'étais assise à ce moment-là. Et là, elle m'a dit, écoute-moi, on m'a dit que j'avais un cancer de jeune fille. Et c'est très rare d'avoir un cancer de jeune fille à 92 ans. Donc il y avait une sorte de transfert étonnant entre nous. Et quand elle nous a invité ses amis sur son lit de mort dans la maison au moment où elle disait au revoir, j'étais avec Rosalie dans la maison et Rosalie me dit, tu sais, Agnès m'a dit juste avant là de plus pouvoir parler, elle m'a dit que toutes les deux vous étiez malades et qu'il fallait que l'une parte et pour que l'une reste. Ça me donne encore des frissons partout. Et on a eu la chance de pouvoir lui dire au revoir. Et quand on est monté avec Rosalie, avec ses petits-enfants, avec son fils Mathieu, de pouvoir avoir Agnès qui était là sur son lit avec des œuvres autour d'elle, à gauche et à droite de sa tête de lit. Et d'être là dans cette chambre où j'étais allée pour plein de fois. Et elle réagissait plus. Et puis quand je lui ai parlé à l'oreille, elle a serré ma main très très fort. Et ça, c'est un des plus beaux gestes d'amour.
Putain. Ma mère est morte.
Et puis j'ai fait le deuil de ma mère de son vivant, parce que moi, travailler avec elle et l'accompagner, ça a été faire mon deuil, en fait. Quand on a présenté son dernier film à la Berlinale en février 2019, on a fait une conférence de presse toutes les deux, et c'était vrai, hyper émouvant, parce que moi, je me disais, bon, elle est là, on est encore dans un festival de cinéma, c'est merveilleux, et elle a dit, elle a pris ma main, elle a dit, mais... je vais arrêter de parler maintenant. Et c'est ma fille qui va parler. Elle était de temps en temps raide, elle nous emmerdait de temps en temps, on n'en pouvait plus, elle était jamais fatiguée, etc. Mais il y avait toujours... Pourquoi c'était possible d'être à ses côtés? Parce qu'il y avait de l'empathie, il y avait de l'humanité. Les gens l'arrêtaient dans la rue en lui disant « Merci pour ce que vous êtes ». Mais c'est tellement plus beau que « J'ai aimé votre film ».
Est-ce qu'elle avait beaucoup d'autres enfants, quelque part?
Ah bah oui, bien sûr. Non, c'est à ça que ça sert les artistes, c'est à être des parents de substitution, des parents d'un autre monde, quoi. C'est vraiment à ça que ça sert. Donc non, mais c'est très bien hein, si ça peut rendre service. Vous savez, moi mes deux parents ont pas ils ont beaucoup sacrifié pour leur art, si vous voulez. Ils ont beaucoup donné pour ça. Ils n'étaient pas acharnés de savoir que la famille aille au mieux. Et je dis ça sans aucune amertume, mais vraiment leur sujet, c'était de tout sacrifier, de tout donner pour le cinéma. Il y avait des raisons très importantes à ça. Ils étaient juste en train de réinventer le septième art, avec d'autres, évidemment, avec Chabrol, avec Godard, avec Truffaut, avec tous ces gens-là. Mais c'était tellement fort et tellement, tellement important que c'était la priorité absolue dans leur vie. S'ils peuvent avoir des enfants spirituels et ils peuvent avoir inspiré des générations d'artistes ou de non-artistes ou juste de gens qui aiment leurs films, ça n'est que justice rendue à leur sacrifice et ça ne peut que me faire plaisir. Voilà, c'est une autre époque, c'est d'autres. On est dans une époque où le cinéma peut-être est en train de vivre, en tout cas sous la forme qu'on le connaît ces dernières heures. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à inventer aujourd'hui. Ils ont tellement tout donné pour la nouvelle vague. C'est parce que les circonstances s'y prêtaient et que ça n'existera plus jamais, si vous voulez. Donc, ça peut être une inspiration, et puis l'art est un peu un éternel recommencement.
Le soir, on était fourbus et on rentrait avec nos sacs, nos tabliers.
C'est l'histoire d'un homme, Monsieur Cinéma, qui a 100 ans et qui perd la mémoire.
Voilà. Je suis née là, dans ce mas, et j'y mourrai.
Ça ne s'explique pas, ça se sent.
Bon, on a réfléchi sur les archives avec mon frère, on ne savait pas comment... Voilà, et c'est Scorsese, Martin Scorsese, qui nous a un peu aiguillé en disant « Est-ce que vous avez réfléchi sur les images numériques, sur le stockage des images numériques ?» On a réfléchi et après j'ai proposé à mon frère de réfléchir à une plateforme où on pourrait donner l'accès à l'intégralité des rushs, c'est-à-dire toutes les images tournées pour le film « Les glaneurs et la glaneuse », tout ça indexé avec un moteur de recherche pour permettre aux étudiants de cinéma de savoir quel plan elle a utilisé et de recréer, eux, dans le cadre de leurs études, un film d'études documentaire où ils pourraient mélanger des images à eux et des images d'Agnès. C'est une matière vivante, quoi. Ils en font ce qu'ils veulent.
C'est une quatrième vie pour Agnès Varda.
C'est une quatrième vie pour Agnès Varda et c'est une expérience pour les étudiants extraordinaire. On a mis un an et demi à faire cette plateforme. Tout a été indexé, sous-titré en anglais. Ça a été un gros travail, mais je me dis qu'aujourd'hui, cette plateforme, elle va vraiment vivre. Et elle va permettre aussi à des jeunes étudiants de se poser la question de comment on fait un documentaire. C'est-à-dire, on se rend compte aussi comment le montage, comment le documentaire est construit par le montage et comment c'est vraiment de la tapisserie, de la dentelle, etc. Donc je pense que pour des étudiants, c'est vraiment une expérience.
Mais c'est génial. Personne ne fait ça. Il n'y a que vous et Agnès Varda qui puissent y faire ça.
Est-ce qu'il faut donner ? Il faut donner, il faut ouvrir la porte, quoi. Il faut prendre un petit risque. Et c'est bien de prendre des risques.
C'était Agnès Varda, 1928-2019, une glaneuse à Hollywood, avec Rosalie Varda, Nourrit Aviv, Nathalie Obadia, Patricia Mazui, Dominique Blueur, Julia Fabry, Prune Nourri et Mathieu Demy. Traduction lue par Marie Constant, prise de son Christophe Papon, Raymond Albuy, Julien Moulet, Clément Vuillet et Grégory Vallon. Mixage Bruno Mourlan, documentation Anne-Lise Signoret, archivina Clary Monac, chargée de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin. Merci au musée Soulages de Rodez, au Forum des images, à Diana Odile, à Christine Krause et à Claude-Éric Poirot. Un documentaire d'Élodie Maillot réalisé par Félix Levaché.
De toute façon, la moitié des gens sont chiches. Ils veulent pas qu'on vous lâne parce qu'ils ont pas envie d'être gentils, c'est tout.